On va donner la parole au docteur Alison Johnson, scénologue donc au centre François Baclès de Caen. Merci d'être avec nous ce soir, docteur. Vous êtes venu spécialement de Caen. Même question que pour le docteur Pernat tout à l'heure. C'est quoi la fonction précise d'un scénologue pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas forcément le jargon médical?
Alors, notre rôle est principalement la prise en charge globale du patient, le suivi, la coordination des soins et l'organisation des traitements médicamenteux. Donc, tout ce qui va concerner la chimiothérapie, les thérapies ciblées, puisqu'on a maintenant quand même pas mal de thérapies ciblées disponibles dans le traitement du cancer du sein, à un stade localisé, précoce, mais aussi métastatique, et les traitements oraux, le traitement anti-hormonal notamment, qui est important pour un grand nombre de patientes.
Alors, le centre François Baclès, c'est souvent un nom qui fait peur, évidemment, parce que ça résonne avec cancer. Et pourtant, c'est très récent, mais j'ai vu qu'il faisait partie des 100 meilleurs hôpitaux du monde pour le traitement contre le cancer, d'une manière générale. La 67e place, exactement, lui a été décernée, là, très récemment, par le magazine américain Newsweek. C'est important aussi de dédramatiser. Baclès égale cancer.
Tout à fait, et puis c'est important donc de signaler qu'on travaille bien et qu'on a fait des efforts importants pour obtenir ces certifications, parce que c'était un travail vraiment très conséquent de tout le personnel de Baclès pour la certification Exoma et celle de Comprehensive Cancer Center donc du coup il y a ça. Et juste peut-être pour préciser un petit peu les traitements médicaux du cancer, donc on a parlé de la chirurgie, de la radiothérapie, et la chimiothérapie n'est donc pas systématique. Elle intervient également dans le but de réduire le risque de récidive du cancer, à la fois au niveau du sein mais aussi à distance, donc elle intervient après la chirurgie ou parfois maintenant de plus en plus souvent avant la chirurgie pour permettre de réaliser une chirurgie la plus conservatrice possible avec le moins de séquelles esthétiques et fonctionnelles. Ensuite, donc du coup, j'ai un petit peu parlé, j'ai évoqué le traitement anti-hormonal et ça c'est vraiment très important puisque la majorité des cancers du sein sont sensibles aux hormones de la femme, l'œstrogène, la progestérone. Et donc on propose également pour ces cancers un traitement qui a pour but de réduire le risque de récidive et qui se prend en comprimé pour une durée minimale de 5 ans. Et donc c'est un traitement qui va se prolonger dans le temps, d'où un suivi prolongé par un oncologue.
Alors justement, il y a pas mal de questions qui concernent la partie du traitement que l'on évoquera tout à l'heure dans les questions-réponses avec nos auditeurs. La durée de la prise en charge, concrètement, vous le suivez combien de temps en général le patient ?
En pratique, 5 ans de surveillance systématique en centre de lutte contre le cancer. Et au final, avec l'ensemble des traitements, depuis la chirurgie jusqu'à la fin de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, voilà, on en est à peu près à 6 ans de suivi, quoi. Mais c'est 5 ans de surveillance post-traitement.
Et vous qui les suivez pendant si longtemps, donc les patientes, la prise en charge initiale, la qualité de la prise en charge initiale, c'est quelque chose d'essentiel?
Ah oui, clairement, il faut que le premier contact, c'est indispensable qu'il soit le plus serein, le plus positif possible. Parce que comme disait Victor, il faut vraiment une relation de confiance pour permettre de mener à bon terme ce traitement et d'améliorer les résultats, quoi.
Durant un suivi aussi long, le choix des mots, lorsqu'on s'adresse aux patients qui souffrent, qui s'inquiètent, évidemment, là aussi c'est quelque chose de primordial.
Oui, clairement, on s'adapte au profil de chaque patient, puisque chaque patient est vraiment unique et a besoin d'entendre des choses différentes. Il faut choisir ses mots avec soin. Mais on a aussi tout un, et ça peut-être qu'on pourra en parler plus tard, mais des soins de support très importants avec des psychologues, des accompagnants, des associations de patients qui nous aident, et des points d'écoute et d'information dans les centres qui accompagnent les patients tout au long de ce parcours.
Merci docteur, vous avez fait parfaitement ma transition en évoquant les associations de patients. Il est 19h passé de 22 minutes sur Radio VFM et vous êtes donc au cœur de cette émission spéciale Octobre Rose consacrée ce soir au cancer du sein, vous l'avez compris, avec de nombreux spécialistes autour de la table. Parmi les associations que vous évoquiez donc docteur Johnson, eh bien il y en a une qui a son siège à Vire. Cette association s'appelle Cœur de Femmes pour Femmes après Mammectomie, une association qui donc on le disait tout à l'heure, a pour objectif justement d'accompagner les femmes qui ont été touchées par un cancer du sein. Bonsoir Marie-Odile Morel.
Bonsoir.
C'est bien ça la fonction de cette association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu son origine, son histoire?
Son histoire, c'est que moi aussi j'ai été touchée par le cancer du sein. Donc j'ai eu l'ablation en 2007. Donc tout ce qu'on vient de dire, je l'ai vécu à Baclès. Je peux dire qu'il y a des gens formidables, il y en a. Donc moi, oui, j'avais vécu tout ça, donc ça me rappelle des souvenirs. Et donc à la fin, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'association pour aider ces femmes-là. À cette époque-là, je vois maintenant, il y a l'ERI à Baclès qui n'existait pas à l'époque. Et moi, je me suis retrouvée un peu toute seule. Donc j'ai cherché dans toute la France s'il y avait des associations et je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai dit, je vais la créer. Et on vient, on aide dans toute la France pour aider les femmes qui ont eu l'ablation du sein. Donc on leur paye des... Parce que je trouve qu'on a une double peine, c'est que tout ce qui est... On nous dit de faire de la natation, mais tout ce qui est prothèse de natation spécifique, c'est pas pris en charge. Le maillot de bain, c'est pas pris en charge. Les soutiens-gorge spécifiques, c'est pas pris en charge. Et ça, c'est vrai. On est mutilé, surtout qu'on a une poitrine généreuse. Moi, je trouve ça lamentable. Et nous, on vient en aide, justement, pour payer ces prothèses, pour aider financièrement ces femmes-là.
Oui, parce que tout cela représente évidemment
une charge financière
importante. Le rôle de votre association, en fait, il est assez unique en France.
Moi, j'ai pas trouvé d'autres associations. Oui, il est unique pratiquement jusqu'à présent. J'ai pas trouvé d'autres associations.
Vous êtes connue en Normandie, au-delà aussi, c'est-à-dire que certaines femmes victimes d'un cancer du sein font appel à vos services?
Pour l'instant, non, mais je suis connue quand même du côté de Nîmes, sur Toulouse. On commence à me connaître sur Rennes. Il y a des gens de Rennes qui sont venus faire la marche parce qu'on organise plein de choses. Donc ça commence à être connu un petit peu.
Oui, parce que pour apporter des aides, il faut évidemment des fonds,
des
ressources.
Tout de suite, c'est difficile pour toute association.
Oui, parce que vous organisez, donc, alors en dehors de ce contexte qui n'est pas favorable en ce moment, c'est vrai, mais vous organisez donc d'ordinaire des manifestations tout au long de l'année?
Tout au long de l'année, que ce soit des lotos, une marche solidaire, des concours de pétanque, des concours de pêche, des ventes de chouquettes avec des partenaires, des ventes de fleurs, plein de choses. On essaye de...
Comment ça se passe quand on a été victime d'un cancer du sein? En fait, on fait appel à vos services, on vous contacte, on vient vous rencontrer pour en parler?
Oh, c'est difficile. Il y a des femmes qui ont vu. Je vois, et depuis 15 jours, on a aidé deux femmes, là, en l'espace de 15 jours. Une dame de nous de Sienne et une de Vire. Soit c'est par le bouche à oreille, soit la première qu'on a aidée, elle avait vu ça dans les journaux. Elle avait vu un article, elle avait dit « Tiens, pourquoi pas aller voir cette dame-là ou prendre contact ?» Et puis voilà. Et comme moi, je l'ai vécu, donc je sais de quoi il en retourne. Je sais ce que ressent une femme. Je vois, la semaine dernière, j'ai parlé avec une femme et elle me disait justement « Moi, je la sentais pas très bien. » Et on a parlé, ça lui a fait du bien parce que j'ai dit « J'ai vécu la même chose que vous. »
Oui, il y a un rôle d'écoute, en fait.
Tout à
fait. Vous êtes aussi, quelque part, un groupe de parole.
Tout à fait.
C'est souvent un sujet tabou. Quand on a été opéré, on n'ose pas forcément en parler autour de soi.
Non, on n'ose pas. Moi, la première. J'ai été pendant des années sans parler. Je ne voulais pas que personne ne le sache, rien. Autant les cheveux, c'était rien pour moi, comme dirait l'autre. Autant les cheveux, on les perd, mais c'est rien, ça repousse. Je me disais, mon sein, il ne repoussera pas. Pour moi, c'était... je vois la dame, justement, on en a parlé la semaine dernière, c'était la même chose. Les cheveux, c'est rien. Moi, pour mon cas personnel. Pour mon cas personnel, peut-être que pour d'autres, mais moi, je me disais, mon sein, il ne repoussera pas.
Il est 19h passé de 27 minutes sur Radio VFM. C'est une émission spéciale que l'on vous propose donc ce soir en direct, émission que vous pourrez retrouver d'ailleurs en intégralité en podcast dès demain sur vfmradio.fr pour celles et ceux qui prennent l'émission en cours, qui n'ont pas pu être à l'heure tout à l'heure à 19h pour écouter le début des interventions de nos spécialistes. L'émission pourra évidemment la réécouter en intégralité demain. La deuxième partie de cette émission, elle est consacrée aux questions-réponses. Vous avez été nombreuses et nombreuses, surtout nombreuses d'ailleurs évidemment, à nous poser des questions tout au long de cette semaine, question que l'on va poser maintenant aux spécialistes qui sont dans nos studios ce soir. On va commencer par cette question que nous a posée Bérénice. Bérénice nous dit, voilà, je me suis fait poser des implants, mais comme je me suis fait refaire les seins, est-ce un risque supplémentaire d'avoir un éventuel cancer? Et du fait de mon intervention, est-ce que je dois faire plus souvent en fait une mammographie? C'est peut-être le docteur Pénin qui est radiologue à la clinique Notre-Dame de Vire qui peut commencer à répondre à cette question.
Alors effectivement, il n'y a pas de risque supplémentaire quand on s'est fait poser des implants mammaires. Et il ne faut pas faire plus de mammographies, ce d'autant plus que les mammographies sont un peu plus compliquées à faire chez les gens qui ont des implants. On couple souvent ça à des échographies, mais en fait, la réponse est très simple. Il faut se faire dépister, comme tout le monde. C'est-à-dire avec les règles actuelles à partir de 50 ans.
Voilà, ni plus ni moins.
Ni plus ni moins, sauf bien évidemment si on se plaint de quelque chose de particulier, auquel cas ça change. Il est évident que quand on a été opéré du sein, on peut avoir de petites cicatrices, de petites zones douloureuses, de petits nodules. Alors là, effectivement, il ne faut pas hésiter, mais pas plus que d'ailleurs chez n'importe quelle autre patiente. Hein. Il ne faut pas hésiter, quand on a un symptôme, à aller voir son médecin et bénéficier d'examens. Mais en tout cas, pas de mammographie supplémentaire quand on a eu des implants.
Docteur Pénin, qu'on évoquait tout à l'heure avec le docteur Marchand, le nombre d'opérations qu'il effectuait à peu près par an. Vous, combien vous en découvrez à peu près? Vous avez une idée du nombre de cancers du sein qui sont découverts ici au centre d'imagerie de Vire?
On en découvre effectivement aux alentours de 60-65 par an, qui reste extrêmement fréquent quand même pour une petite ville. Hein. Mais bon, donc on a une zone de patientèle qui est un petit peu plus large que la ville, bien sûr. Hein. Et je voulais faire une petite aparté parce que je me suis rendu compte, en fait, avec ce que vous avez dit, madame, que, en particulier pour le premier geste pour ces patientes suspectes de cancer du sein, il y a quand même une charge psychologique importante et je pense qu'il faut faire ces gestes rapidement. On a eu trop tendance à attendre, voir une patiente, lui dire ah ben, vous avez une petite boule, madame, il va falloir qu'on s'en occupe, faire un prélèvement. Et à ce moment-là, on attend 8 jours pour donner le rendez-vous du prélèvement. Puis après, il y a le résultat de la napate, ça met 15 jours, ça met 3 semaines, c'est long, ça angoisse les gens et ils se sentent un peu abandonnés dans ces moments-là. Et nous, on a décidé depuis plusieurs années avec monsieur Marchand d'essayer de prendre ces patientes le plus rapidement possible. Et quand on découvre quelque chose, on peut être sûr que dans les 8 jours qui suivent, non seulement on aura fait la biopsie, mais on aura le résultat. Et on pourra déjà adresser la patiente pour qu'elle ne reste pas dans cette angoisse. Et j'encourage tous mes collègues à faire de même, parce qu'on s'est rendu compte, depuis qu'on fait ça, que vous avez dit tout à l'heure que les premiers pas, les premiers mots étaient importants, et ça commence par là.
Et c'est ce que j'allais vous dire, docteur Pénin, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes chargé d'annoncer en fait le résultat de l'imagerie. Et c'est difficile ce moment parce qu'on a déjà, vous parliez d'angoisse tout à l'heure, on est souvent angoissé lorsqu'on va passer une IRM, un scanner, une échographie. On appréhende ce moment-là, mais on appréhende évidemment le verdict. Et c'est vous qui avez la responsabilité de l'annoncer.
Alors c'est variable, mais chez nous, oui. Nous, effectivement, nous annonçons le diagnostic, puisque nous avons fait le prélèvement, nous annonçons le diagnostic. Et justement, ça corrobore ce que je viens de dire. Je pense que plus vous avez pris la patiente et plus vous l'avez rassurée en accélérant le mouvement, sans la laisser chez elle à se morfondre pendant des jours et des jours et des jours en attendant le diagnostic, bien plus vous créez un climat de confiance et plus l'annonce est... Je ne vais pas dire que c'est facile, c'est jamais facile, c'est toujours difficile, surtout pour la patiente d'ailleurs. Mais plus vous allez vite, plus c'est important, plus la patiente se sent rassurée et en confiance. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit faire un gros gros effort, parce qu'on voit encore trop souvent des gens qui ont un diagnostic donné au bout de 3 ou 4 semaines. Ça arrive encore fréquemment.
Je vous voyais approuver, docteur Johnson, les propos du docteur Péninck, dans la façon d'accueillir la patiente, dans la façon de l'annoncer, dans l'importance d'aller vite.
En fait, oui, on a mis en place depuis quelque temps, déjà maintenant à Baclès, des consultations de parcours rapide au sein de l'Institut Bas-Normand du Sein, l'INS. Et donc, c'est des consultations avec théoriquement donc, l'ensemble des examens nécessaires et diagnostiques et pré-thérapeutiques et l'annonce et la mise en place des traitements en 7 jours. Normalement, les patients doivent pouvoir avoir accès à une consultation extrêmement rapide avec un oncologue médical pour commencer leur traitement, puisque ça va peut-être emboîter un petit peu sur la question suivante, sur la rapidité de l'évolution de ces cancers, mais certains ont une évolution plus rapide que d'autres, donc en plus il faut qu'on soit assez réactif.
Ouais, docteur Pernin, justement, il faut aller vite. Ça veut dire qu'il y a un devoir de réactivité aussi de la part des professionnels que vous êtes. Clairement, la patiente qu'on vous envoie, elle ne peut pas attendre.
Non, elle ne peut pas attendre. Effectivement, c'est pour ça qu'effectivement les différents centres aujourd'hui proposent toujours une prise en charge rapide. C'est devenu presque un standard aujourd'hui. Tu vois, un centre qui traite un cancer du sein, effectivement, se doit d'être rapide dans la prise en charge. D'une part, pour ne pas perdre de chance, que la patiente ne perde pas de chance pour que la tumeur n'évolue pas pendant ce temps de diagnostic. Et d'autre part, à visée psychologique, le plus tôt on a la réponse, le plus tôt on se dirige vers le bon professionnel et le plus tôt on est traité.
Gisèle nous a posé... Oui, allez-y, docteur Marchand.
Il faut être rapide, mais ça n'est pas une urgence. Ce que je veux dire, c'est que il faut que les femmes puissent avoir accès rapidement aux examens, aux biopsies, et qu'on leur donne rapidement le diagnostic, parce qu'ensuite, l'attitude thérapeutique va être dictée par des réunions. Il faut que les médecins se réunissent, il faut qu'il y ait un radiothérapeute, un chimiothérapeute, tout le monde se réunit pour donner un avis de prise en charge. Alors déjà, ça prend un peu de temps. Alors après, y a la patiente a un temps de réflexion. Elle peut choisir où elle veut être prise en charge, par qui elle veut être prise en charge. Ce temps de réflexion, c'est possible, il n'y a pas besoin, c'est pas une urgence. Ce qui est urgent, c'est la prise en charge initiale, pas perdre de temps pour faire les bons examens et avoir le diagnostic assez rapidement. Une fois qu'on a le diagnostic, on a le temps à la fois de la discussion entre médecins, de l'information avec la patiente et le temps qu'elle choisisse ce qu'elle doit faire. C'est plus on va tarder dans la prise en charge diagnostique et moins elle va avoir le temps de réfléchir. Une fois qu'elle aura tous les éléments, là, elle a le temps de réfléchir, de savoir où elle veut se faire opérer, comment elle veut se faire opérer, choisir les... Voilà.